Pensée. La douleur n'est nullement un privilège, un signe de noblesse, un souvenir de Dieu. La douleur est une chose bestiale et féroce, banale et gratuite, naturelle comme l'air. Elle est impalpable, elle échappe à toute prise et à toute lutte, elle vit dans le temps, elle est la même chose que le temps. Bonjour Nancy Ypsilantis.
Bonjour Michel Durand-Valade.
C'est un très très beau texte que celui que vous...
Je ne vous le propose pas, c'est David Le Breton oui. qui le met en exergue au début du livre oui. et j'ai trouvé que cette phrase de César et Pavese était juste extraordinaire. En plus c'est extrait de Le métier de vivre. Mm-hmm. Et le métier de vivre avec une douleur chronique, ça s'apprend.
Voilà. Et c'est d'ailleurs les propos, du dernier ouvrage de David Le Breton. Bonjour David Le Breton.
Bonjour.
Bonjour, vous nous entendez. Tenir, douleur
oui,
chronique.
Je vous entends.
Oui, douleur chronique et réinvention de soi, et ça vient de paraître aux éditions Métellier.
Bonjour David Le Breton, à nouveau, quel bonheur de vous avoir dans Versus.
Merci infiniment.
Vous avez fait l'éloge de la marche, vous avez parlé de la passion du risque, vous avez parlé des ados, du tatouage, des éclats de voix, du silence, de la marche. Tout tourne autour du corps et c'est la troisième fois que vous revenez oui. sur la douleur. Il y avait encore oui. des choses à dire.
Oui, dans mon premier livre qui s'appelait Anthropologie de la douleur, j'avais essayé de comprendre comment le social, le culturel, nos histoires de vie nous amenaient à ressentir une douleur de telle ou telle manière. Pardon. Et puis dans Expérience de la douleur, mon second livre sur la douleur, j'essayais de comprendre quelle était la somme de douleur, la somme de souffrance plus exactement, qui accompagnait un certain nombre d'activités ou d'expériences de la condition humaine. Donc j'avais évoqué par exemple la douleur subie, et là d'ailleurs on le verra, on est dans le contexte de la douleur chronique, la douleur subie qui est celle de la maladie, des séquelles d'un accident ou d'une maladie évolutive par exemple, et là la douleur subie on peut dire qu'elle provoque énormément de souffrance. En revanche il existe aussi la douleur choisie, c'est plutôt une douleur qui nous donne des limites, qui nous donne un sentiment de contrôle sur notre existence. C'est la douleur qui est associée aux activités physiques et sportives, aux tatouages, aux piercings, aux pratiques de suspension, au body art, etc. Mmh. Et puis, il y avait aussi cette douleur qui permet paradoxalement à des adolescentes ou à des adolescents en grande détresse de contrôler une part de la souffrance qui les étreint à travers les scarifications ou les attaques au corps, par exemple, où là, l'ambivalence, c'est qu'il s'agit de se faire mal pour avoir moins mal, hein, de se faire mal à son corps pour avoir moins mal dans sa vie. Et puis, dans ce troisième... Donc là, c'était le paradoxe d'une douleur, vous voyez, qui protège de la souffrance. Et puis dans ce troisième livre qui vient de paraître, je me suis plutôt intéressé à la manière dont on pouvait vivre quand on a une douleur qui est persistante, puisque la douleur chronique, donc on la définit comme étant une douleur qui dure depuis au moins 3 mois et que la médecine donc est absolument impuissante à neutraliser ou à soulager.
Cette douleur, il faut la contrôler et c'est un état par définition anormal.
Oui, c'est ça, parce que la personne se sent en porte-à-faux avec son existence, elle est comme arrachée à elle-même, elle vit dans un état de fatigue, d'épuisement, d'irritabilité, avec également parfois un entourage qui a énormément de mal à comprendre l'intensité de cette souffrance, et puis souvent elle amène d'ailleurs à rompre des études par exemple quand on est étudiant ou à avoir des gros problèmes dans son travail, dans son entreprise, dans son usine, voilà. Donc c'est la douleur chronique, vraiment elle nous arrache profondément à l'évidence de vivre, hein. C'est-à-dire que vivre devient un effort absolument permanent où il faut sans arrêt trouver des stratagèmes pour essayer de contourner cette souffrance, essayer de trouver également le bon praticien qui va permettre de la soulager un peu. Voilà, ou trouver le compromis aussi qui va permettre que cette douleur ne dévore pas tout sur son passage.
Est-ce qu'elle a une fonction ? Est-ce qu'on lui cherche une fonction ?
Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler que la douleur est une sorte d'aide au diagnostic jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, lorsque nous allons voir le médecin, c'est que nous avons mal quelque part et que nous et que nous pensons donc que cette douleur vient attester d'une difficulté organique qui est la nôtre. Ce qui est terrible, c'est évidemment quand la douleur déborde complètement son rôle, qu'elle nous écrase complètement, qu'elle ne sert plus au diagnostic, hein, comme par exemple des douleurs associées au cancer, les lombalgies. Nous sommes des centaines de millions de gens sur la planète à avoir des maux de dos, par exemple, terribles. Mais là, la douleur ne sert à rien, quoi. Elle est simplement une entrave. Donc il y a cette ambivalence de la douleur que la médecine a bien pris en compte. Une douleur donc qui aide à l'élaboration d'un diagnostic et donc à un traitement, à une prise en charge efficace. Mais il y a aussi une sorte de débordement, de sauvagerie de cette douleur quand elle ne sert plus au diagnostic et qu'elle détruit totalement notre existence pour rien d'une certaine manière parce que elle ne sert plus au médecin à comprendre le mal. Le mal a été éventuellement diagnostiqué, mais la douleur est toujours là.
David Le Breton, vous parlez de cette douleur chronique qui rétrécit notre vision du monde, une douleur qui est épuisante, abîmante. La douleur, c'est une maladie ?
C'est compliqué à dire parce que vous voyez quand la douleur est choisie, comme dans les activités physiques et sportives, je crois que c'est le plus simple pour comprendre. On va chacun se rentrer dedans entre guillemets. On n'aura pas peur de se faire mal et par exemple de courir un marathon ou de traverser un lac à la nage. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit une douleur maladie. C'est une douleur qui fait partie de la vie. Si vous proposiez à un alpiniste de faire un 8000 en face nord en plein hiver et qu'il arrive tout fringant au sommet, mais il vous dira, ça ne m'intéresse absolument pas, je veux me battre, je veux sentir dans toute ma chair ma progression et puis donc être dans la jubilation d'avoir réussi. On peut dire que la douleur devient maladie quand elle est vraiment une espèce de possession ravageuse de la personne, quand elle empêche complètement de vivre, quand elle est absolument inutile parce que la personne n'arrive pas à lui mettre une signification, comme autrefois par exemple on pouvait lui mettre une signification religieuse. Ici, dans nos sociétés beaucoup plus laïques, on a l'impression que la douleur est simplement une torture qui ne sert absolument à rien. Ça ne nous prépare nullement au paradis, mais plutôt ça démolit complètement notre vie personnelle. Alors là, on peut dire effectivement qu'il y a sans doute dans la maladie, dans la douleur, une dimension de maladie. Et c'était d'ailleurs René Le Riche, hein, l'un des pionniers en matière de chirurgie sur la douleur, qui a commencé une bonne partie de sa carrière à Strasbourg. C'est René Le Riche qui avait pensé que pour un certain nombre de patients dont la vie était totalement abîmée par la douleur, qu'on devait parler de douleur maladie et que les médecins devaient se mobiliser par rapport à une plainte qu'ils devaient croire d'abord, parce que à l'époque, dans les années 30-40, René Le Riche devait se battre parfois contre un certain nombre de ses collègues qui considéraient que les patients exagéraient un peu, qu'ils n'avaient pas aussi mal que ça, etc. Donc Le Riche insistait sur le fait que la douleur était une maladie. Et d'ailleurs, René Le Riche a cette phrase extrêmement forte. Il dit, la seule douleur supportable, c'est la douleur des autres. Hein? La seule douleur supportable, c'est la douleur des autres. Donc il ne faudrait jamais dire de quelqu'un qu'il en fait un peu trop, qu'il en rajoute, que si on était à sa place, on n'aurait pas aussi mal, etc. Non, sur sa douleur, la personne est toujours la seule juge.
Et pourtant, on essaie de l'évaluer, de la cerner, de dire ça fait mal de combien, sur 1, sur 10, etc. Donc, difficile à cerner, une maladie chronique qui souvent ne se voit pas.
Oui, voilà. Alors évidemment, les échelles de la douleur n'ont de valeur que de manière très subjective, très personnelle. Elles permettent aux médecins de suivre l'impact, par exemple, d'un traitement, d'une molécule ou d'un soin quelconque. C'est-à-dire, si moi, patient, hier, je dis au médecin, j'évalue ma douleur autour de 6, 7, voilà, une douleur donc très vive, et que après les soins qu'on m'a donnés, je peux dire au médecin, aujourd'hui, je sens que je suis à 3 ou 4. Vous voyez voyez que vous donnez à l'équipe soignante une sorte de repère de l'efficacité des traitements qu'on donne aux patients. Donc c'est très important. Il ne faut pas croire que ces échelles de douleur ont une valeur objective, évidemment. C'est-à-dire, il faut que le patient réponde pour lui-même. Quand on lui dit mettez un chiffre à votre douleur, beaucoup de patients ont l'impression qu'ils voudraient être dans l'universel, qu'on leur demande d'être dans l'universel pour cataloguer leur douleur, mais pas du tout. Il s'agit simplement d'être dans son ressenti personnel, et donc d'évaluer entre 0 et 10 par rapport à la manière dont la douleur nous fracture, nous abîme. Et donc l'autre problème que vous soulevez, en effet, c'est cette invisibilité de la douleur, qui est quelque chose de terrible, parce que bon nombre de patients ne sont pas crus par leur médecin, ne sont pas crus par leur entourage. Ils ont une vie totalement brisée, ils ont abominablement mal, et on leur dit mais il y a rien, je ne vois rien, par exemple, hein, quand les médecins sont uniquement obsédés par l'organisme et pas par la singularité souffrante du patient. Parfois, ils ont tendance à oublier donc que le patient est toujours le seul à pouvoir dire l'intensité de sa douleur.
Et vous le dites, le malade devient un petit, c'est quelqu'un qui témoigne, devient un petit alchimiste de la douleur, hein, puisqu'il va voir l'acupuncteur, l'homéopathe, l'ostéopathe, le chiro, prapathe, enfin bref, les massages divers, ouais, etc. Ouais. Il devient un petit spécialiste de sa douleur dans une immense solitude.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le parcours que vivent la quasi-totalité des personnes douloureuses chroniques. C'est de découvrir que la médecine officielle, en quelque sorte, la médecine de l'hôpital ou les spécialistes de nos grandes villes sont impuissants à soulager leur douleur. Alors, ils vont voir ailleurs. C'est un bel exemple, si vous voulez, de ce qu'on appelle en sociologie le pluralisme médical. On va voir un acupuncteur et puis on va voir un homéopathe. Ça ne marche toujours pas. Alors, on va voir un ostéopathe. Et puis on apprend qu'un guérisseur formidable est dans une vallée pas loin, donc on va voir également le guérisseur. Ça ne marche toujours pas, alors on essaie les massages ayurvédiques, et puis parfois à bout de souffle on finit par établir un compromis avec sa douleur. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, alors on les utilise à sa manière. On devient en effet une sorte, c'est l'une des personnes que j'interroge qui dit je suis devenue la petite chimiste. C'est-à-dire qu'elle dose ses médicaments par elle-même, parce qu'elle a renoncé à aller voir les médecins qui ne la comprennent pas, qui n'arrivent pas du tout à la soulager. Voilà, donc toute douleur chronique implique ce parcours, cette espèce d'inventivité pour aller à la recherche du bon thérapeute. J'oubliais d'ailleurs l'hypnose, hein, qui à mes yeux est l'une des techniques les plus efficaces en matière de soulagement de la douleur, et qui est une offre de plus en plus importante aujourd'hui. Des médecins, même à l'hôpital, hein, les médecins se sont rendus compte qu'au-delà des molécules, au-delà des soins parfois un peu invasifs, il y avait des techniques, ce que j'aime bien appeler des techniques de sens, c'est-à-dire des techniques où on utilise, où on travaille sur la signification de la douleur par le patient, et l'hypnothérapie est une démarche très efficace pour le soulagement de la douleur.
David Le Breton, qu'amène le regard d'un anthropologue sur la douleur chronique ?
Là, je me sens dans le prolongement de tous mes autres livres sur les conduites à risque des jeunes, sur les souffrances adolescentes, sur d'autres thématiques qui m'ont hanté ces dernières années. Je crois que je suis animé d'une volonté éthique, en quelque sorte, dans tout mon travail. Et donc, à la fois, j'essaie de comprendre ce que peut vivre, par exemple, un adolescent en grande détresse personnelle, ou là, en l'occurrence, ce que peut vivre un patient douloureux chronique. Et mon travail, finalement, c'est de recueillir leurs paroles, de l'analyser, de la comprendre sur un plan anthropologique, avec l'espoir, là par exemple dans mon livre sur la douleur, avec l'espoir que les médecins, les infirmières, toutes les personnes, les aides-soignantes, toutes les personnes qui travaillent avec des patients douloureux auront accès à des pans de leur histoire de vie, des pans de l'histoire de leur douleur auxquels ils n'ont pas accès, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'idée de poser ces questions aux patients. Et je pense donc que notre travail, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, en tant que psychologue ou psychanalyste, donne des outils entre les mains des thérapeutes qui ont une action immédiate sur les patients. Moi, je ne rencontre pas de patients. Enfin, je les rencontre évidemment quand je fais des interviews, quand je chemine avec eux, quand j'assiste à des consultations antidouleurs. Et donc, je peux avoir des paroles avec eux. Parfois, j'espère des paroles apaisantes, des paroles d'amitié, de compréhension, d'accompagnement. Mais ce n'est pas moi qui va donner, qui va proposer un soin, qui va proposer un médicament ou autre. Mais je pense malgré tout qu'un travail comme le mien donc peut être utile aux médecins.
David Le Breton, toute petite question avant qu'on écoute un peu de musique. Est-ce que l'on s'attache à sa douleur? Est-ce qu'elle devient constitutive de l'être, de la personne?
Je pense qu'il y a deux types de douleurs alors à pointer. Il y a la douleur qui s'impose à nous, qui fait violence. Après, par exemple, un accident, les séquelles d'une maladie ou autre, on ne se reconnaît absolument pas dans cette douleur. On va se battre comme des fous pour essayer d'y échapper. Mais peut-être, il y a aussi un certain nombre d'hommes ou de femmes qui ont besoin, entre guillemets, de cette douleur. Là, je sais qu'on est dans une zone beaucoup plus polémique, mais qui a énormément passionné les psychologues ou les psychanalystes. Par exemple, c'est une douleur qui est insérée dans une histoire de vie, c'est une douleur qui fait sens, c'est une douleur qui vient colmater d'autres brèches, d'autres souffrances, et qui permet finalement à la personne d'établir une sorte de compromis avec son existence. Le psychanalyste Thomas Szasz aux États-Unis parlait de patients qui font profession de leur douleur, entre guillemets. Et pour l'anthropologue que je suis, ce n'est pas là quelque chose d'extraordinaire ou de troublant, parce que finalement, c'est ce qu'on vit de manière très banale, si j'ose dire, dans la clinique adolescente, où vous avez des millions de jeunes en Europe, par exemple, qui s'écorchent, qui se font mal, et qui pour lutter contre une souffrance qui est dans leur vie. Et vous voyez comment, paradoxalement, mais ça fait partie de la condition humaine aussi, comment parfois la douleur nous protège du pire, nous protège de l'angoisse, nous protège d'un sentiment de démantèlement de soi. Et là, ce sont des patients, donc des patients qui peuvent être des patients douloureux chroniques, qui à mon avis ont besoin à la fois de soins à l'hôpital, mais qui doivent être également accompagnés par des thérapeutes pour les aider à mieux comprendre ce qui s'est passé un jour dans leur vie et qui les amène à une telle souffrance aujourd'hui. On sait par exemple, pardonnez-moi, j'ajoute encore quelque chose, on sait combien les abus sexuels par exemple alimentent très souvent des douleurs chroniques que les médecins ont beaucoup de mal à comprendre. On est très troublé quand on travaille comme ça sur les histoires de vie autour de la douleur, de découvrir ces traumatismes d'enfance ou d'adolescence qui continuent à faire des vagues en quelque sorte, même quand les gens ont 40, 50 ans, 60 ans, comme si quelque chose en eux avait été brisé. Ce sont des choses c'est un traumatisme qui n'a jamais été dit et donc qui n'a jamais pu être entendu et qu'il faut savoir que le thérapeute, le clinicien peut parfois essayer de retrouver.
Alors je le disais, il y a très peu d'expressions de la douleur physique dans la musique. C'est un art qui exprime évidemment à ravir les tourments de l'âme, mais qui est un petit peu maladroit avec ceux du corps, un peu comme si ce corps était moins noble que l'âme qui l'anime. Mais voici un petit exemple trouvé dans une pièce de Bieber. Nous sommes au début du XVIIIe siècle et Bieber, il fait la peinture sonore musicale d'une bataille. C'est la bataille, il y a d'ailleurs une bataille qui prend fin sur les lamentations des soldats blessés. Alors je vous rassure, ça reste assez soft, mais il me semble que le parti rythmique qu'emploie le compositeur décrit assez bien le caractère lancinant et pulsé que peut avoir une douleur.
Thank you.
Comment on souffrait sur les champs de bataille au XVIIIe siècle. En tout cas, tel que décrit par Heinrich Ignaz Franz von Bieber et interprété ici par Jordi Savall. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces siècles passés, est-ce que l'on supportait différemment la douleur? Je reprends la question dans l'autre sens. Est-ce qu'aujourd'hui, on a peur et on déteste souffrir? Et on ne sait plus souffrir ou on ne supporte plus la douleur?
C'est vrai qu'autrefois, il y a encore, disons, une cinquantaine, une soixantaine d'années, la douleur pouvait être prise dans un discours religieux et donc notamment dans la tradition chrétienne. Et on pouvait donc souffrir pour le Christ, etc.
Ce comme un
évidemment
cadeau.
Une manière,
la souffrance voilà, pouvait être un cadeau. Hein
pouvait être un cadeau.
Une épreuve cadeau.
Et en tous les cas, ce sentiment finalement de se rapprocher du Christ à travers cette douleur était un soulagement. Hein, il y a le grand texte de Blaise Pascal, par exemple, la prière pour le bon usage de la maladie, et qui se réjouit, qui dit à Jésus, oh Jésus, comme c'est merveilleux que je souffre à ce point-là, parce que ça me rapproche de toi sur la croix, etc., etc. Bon, mais alors par contre, il ne faut pas dénier hein, cette efficacité symbolique. Hein, je pense qu'à une époque où il n'y a pas grand chose d'autre pour diminuer ce côté acéré de la douleur, je pense que bon nombre des millions de gens au fil des siècles ont trouvé là une sorte d'apaisement, de soulagement. Mais aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus énormément de sens. C'est-à-dire que notre douleur, elle est aujourd'hui vécue comme une torture. Elle n'a plus de signification aucune. Donc, c'est là où, paradoxalement, vous voyez, ça nous fait souffrir d'une certaine manière davantage, parce qu'on se dit, je souffre pour rien, ma douleur n'a aucun sens, la médecine ne trouve pas encore de solution. Donc, il faut trouver des manières personnelles, finalement, de mettre une signification à sa douleur. Alors, dans les interviews que j'ai menées, il y a un certain nombre d'hommes ou de femmes qui, finalement, trouvent des bonnes raisons. Hein. Parfois, ce sont des enfants, des maltraitances de l'enfance, des choses de cet ordre-là, une manière de, enfin, je sais pas, il y a tellement
des douleurs dues au travail, etc.
Ah oui, alors là par contre on peut dire qu'il y a des bonnes raisons parfois, effectivement, c'est le travail qui vous détruit le corps parce que vous êtes à un poste par exemple qui exige de vous de vous défoncer, de vous faire mal, d'avoir sans arrêt les mêmes postures répétitives et qui sont très douloureuses. Oui, là je donne un certain nombre d'exemples qui sont même parfois absolument tragiques, et puis d'autres fois c'est évidemment plus énigmatique, mais c'est souvent les patients font un lien avec leur enfance, avec l'absence de la mère ou avec l'absence du père ou avec des blessures d'enfance qui n'ont jamais pu être résolues, ou un deuil. Je sais que je souffre aujourd'hui parce que j'ai perdu mon père et c'était tellement inattendu, je ne m'en suis jamais remise, etc., etc. Mais là, vous voyez, ce sont des significations qui permettent de comprendre, mais qui n'allègent pas en revanche la souffrance éprouvée.
David Le Breton, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'aspect historique de cette douleur, comme telle qu'on la perçoit, telle qu'on la définit. Et pour vous, c'est à partir de la Renaissance vésale que notre perception du corps change. Il devient non plus un corps, mais un organisme.
Voilà, là j'ai énormément travaillé là-dessus il y a quelques années. C'est ce que j'ai appelé l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. C'est l'idée, lorsque les anatomistes par exemple vont disséquer les corps, vous voyez, ils vont découper en quelque sorte la personne de son corps. Il y a la personne d'un côté, il y a son corps de l'autre. Le corps, c'est l'universel, alors que nous sommes évidemment chacun de nous, des hommes ou des femmes, dans une extrême singularité. Je crois d'ailleurs que c'est C'est Marguerite Yourcenar qui a la formule la plus forte à cet égard, hein, dans son merveilleux roman L'œuvre au noir, quand elle raconte l'errance à travers l'Europe de la Renaissance, de trois humanistes. Il y a deux hommes et il y a le fils de l'un d'entre eux. Et donc ce sont des hommes qui sont à l'affût de toute possibilité d'apprendre, et ils sont dans une auberge, et puis voilà le fils qui meurt soudain dans des circonstances un peu inattendues, et Marguerite Yourcenar écrit à ce moment-là décrit la dissection dont le fils va faire l'objet dans cette quête éperdue de connaissances qui anime les deux hommes. Et Marguerite Yourcenar a cette phrase extraordinaire, elle dit: ils se penchèrent sur cet homme qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. Un bel exemple de la machine humaine. Ce n'est plus le fils, ce n'est plus l'ami. Là, vous avez en une phrase toute l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. Et c'est à travers ce corps qui est devenu un organisme que nous sommes soignés à l'hôpital. Surtout si le médecin, évidemment, ne rétablit pas à travers la clinique. Parce que la clinique, ça doit être en principe le retour à la singularité du patient. Si le médecin ne rétablit pas cette singularité,
il semblerait que nous ayons un tout petit problème de liaison avec le studio de Strasbourg. J'espère qu'on va pouvoir retrouver David Le Breton. David Le Breton que nous écoutions là à l'instant à votre micro dans ces épilantis sous le feu de vos questions, parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, donc Tenir, douleur chronique et réinvention de soi, paru chez Métellier. Est-ce que vous êtes de retour, David Le Breton?
Oui, je suis là.
Voilà, voilà. On vous avait lâché un petit moment.
Nous parlions donc de cette scission entre corps et âme. Et à un moment donné, il faut une réconciliation. Et vous avez évoqué le rôle des médecins. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux, en tout cas je sais qu'à Lausanne, qu'à Genève, c'est le cas, on parle de centre de la douleur. On s'occupe on écoute cette douleur.
Voilà. Et là, on peut dire que ce sont des centres qui rétablissent vraiment une clinique. C'est-à-dire, pardon, décidément, on a quelques problèmes ce matin. Ce sont des centres donc qui rétablissent vraiment la singularité de la personne souffrante. J'en ai rencontré énormément. D'ailleurs, j'en ai rencontré aussi à Lausanne et à Genève. Pour moi, ce sont des hommes ou des femmes qui sont formidablement à l'écoute des patients, qui vont également être inventifs dans leur prise en charge. Ça a été la grande, finalement, une manière dans les années 90 pour la médecine de rétablir la personne malade dans le dispositif de soins, d'oublier un petit peu l'organisme, même si l'organisme est évidemment toujours pris en charge. Les médecins même de la douleur continuent à travailler sur des examens médicaux, sur l'imagerie médicale et autres, mais en même temps ils se tournent vers le visage de la personne en souffrance et elles l'interrogent sur son histoire, sur le premier moment où cette personne a commencé à avoir mal. Ce sont des médecins qui les interrogent également sur ce qui les soulage, ce qui leur permet de tenir le coup, etc. Pour moi, donc, c'est une médecine formidablement inventive, une médecine de l'accompagnement, et plus une médecine qui a une réponse du tac au tac en termes de molécules, en termes de soins. Non, je pense que la médecine a fait des grands progrès dans la prise en charge de la douleur ces dernières décennies, en tous les cas dans les centres de la douleur. Mais en même temps, il faut bien rappeler, et c'est en faveur des médecins évidemment, que la médecine n'est pas toute puissante. Que la douleur, très souvent, pose, même pour des médecins qui sont passionnés par leur métier et dans une volonté éperdue de venir en aide à leurs patients, parfois ils ne trouvent pas la solution. Ils ont beau cheminer pendant des mois et des mois avec des patients dont ils voient la souffrance, ils n'arrivent pas à trouver. Voilà. Mais ça, je pense que c'est la médecine. De la même façon qu'un enseignant n'est pas tout puissant et ne peut pas amener tous ses étudiants à des doctorats prodigieux, de la même façon, je pense, les médecins n'ont pas réponse à toutes les pathologies, toutes les maladies. Il y a quelque chose aussi dans la douleur de très alchimique, de très singulier, de très compliqué.
Une douleur chronique qui implique forcément une réorganisation radicale de son existence, son rapport aux autres, à la famille, son rapport au travail.
Oui, c'est toute la vie qui change finalement. Il faut parfois réaménager même complètement l'appartement, la maison, parce que par exemple, quelqu'un, un lombalgique qui a terriblement mal, n'arrive plus à monter les escaliers, alors il faut des dispositifs techniques pour le soulager, ou alors mettre la chambre par exemple au rez-de-chaussée, mettre la salle de bain au rez-de-chaussée. Parfois dans les familles, il y a comme ça une organisation pour la personne qui est valide en pleine forme, et puis par exemple des étagères plus basse pour la personne qui a du mal à bouger, ou des étagères plus hautes pour la personne qui n'arrive plus à se baisser, etc. Et puis c'est toute une organisation pour aller par exemple à son école, à son université, à son travail.
Mais donc l'expérience de l'isolement total aussi.
Pour beaucoup, effectivement, c'est une expérience de... On peut dire que la douleur chronique est une sorte d'épreuve de vérité, notamment dans les couples. Hein, dans ce que j'ai pu voir, il y a parfois des couples qui se défont, et notamment, il y a plus d'hommes qui partent que de femmes. Hein, malheureusement, la femme qui a une douleur chronique et l'homme qui, finalement, va chercher ailleurs une meilleure fortune. Alors que nous savons, mais ça fait partie de ce qu'on appelle l'éthique du care, hein, aujourd'hui en sciences sociales, c'est-à-dire, on sait que les femmes sont davantage engagées dans le soin, la responsabilité envers les autres, alors que les hommes ont une fâcheuse tendance parfois à oublier leurs responsabilités. Et donc, on voit couramment des femmes se dévouer avec amour à leur mari ou leur compagnon qui est en grande souffrance, alors que c'est beaucoup moins le cas à l'inverse. Mais par contre, parfois, la douleur chronique peut rapprocher des couples, leur donner le sentiment que finalement, il y a énormément d'amour entre eux, parce que la douleur n'a rien du tout altéré à leurs sentiments. Et puis d'autres sont tout seuls. Parfois, ce sont des personnes âgées, des personnes très âgées, qui en effet vivent un isolement tragique, avec une douleur qui les a complètement arrachés aux activités qui leur donnaient un peu de goût de vivre, et qui sont parfois cantonnés dans leur chambre comme une prison, parce qu'ils n'arrivent pratiquement plus à se déplacer, où il faudrait même sur le fauteuil roulant, c'est pas forcément facile pour eux de s'y installer ou de bouger, parfois de descendre une marche ou deux de leur appartement ou de leur maison. Non, c'est vrai que la douleur chronique est quand même la plupart du temps une tragédie personnelle.
David Le Breton, vous parliez des hommes et des femmes. Est-ce que c'est une légende de croire que les femmes sont plus résistantes à la douleur que les hommes ?
Oh non, je crois que c'est une question d'histoire de vie, c'est une question d'éducation, c'est une question de socialisation. C'est vrai qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, nous sommes socialisés de manière différente. Et tout à l'heure, quand je parlais d'une éthique du care, d'une éthique du soin, et quand je pointais que les femmes étaient généralement plus responsables envers les autres que ne le sont les hommes, je pointais évidemment non pas une essence du féminin, non pas une nature du féminin, mais plutôt donc des systèmes d'éducation qui font que, par exemple, une petite fille, on va lui demander de veiller à son petit frère, alors que le petit garçon lui dira « va jouer mon fils ». Bon. Et par rapport à la douleur, par rapport à la socialisation du rapport à la douleur, en principe, on apprend au petit garçon à s'endurcir. Hein, ça fait partie de la virilité. Oui. Ou disons, ça faisait partie
pleurer.
De la virilité. Ne pleure pas, fais pas ta petite fille, fais pas ta sissi, comme disent les Américains. Oui. T'es un homme, mon fils. Hein. Alors qu'une petite fille, on a tendance à dire c'est beau, elle pleure, bon, bah, elle va trouver un prince charmant qui va la consoler, c'est bien, quoi. Donc, mais alors, dans l'expérience, en revanche, on ne retrouve pas toujours ces formes de socialisation. C'est vrai que les femmes font parfois preuve d'énormément de force intérieure. Elles se rendent compte que les médecins n'arrivent pas à trouver une réponse à leur douleur, à leur souffrance, et puis elles ont en même temps, elles doivent s'occuper de leurs enfants, parfois encore de leur mari, de leur compagnon, qui sont pas toujours très attentifs à la souffrance de leur épouse, hein, comme je disais tout à l'heure, et donc elles doivent tenir le coup. Alors que l'homme, plus facilement, se verra soulagé d'une bonne part des efforts qu'il pourrait mener, par exemple à la cuisine ou dans les activités familières de la maison. Sa femme très souvent le soulagera. Et Voilà, donc c'est compliqué. Je crois qu'il ne faut pas céder à une sorte de sociologisme qui dirait que soit les femmes, soit les hommes sont plus endurants les uns que les autres. Je crois que c'est aussi d'abord une question d'histoire de vie. Je crois qu'il y a des hommes qui sont incroyablement endurants et d'autres qui sont incroyablement douillés. Mais je crois qu'on trouvera également chez les femmes les mêmes logiques de femmes endurantes ou de femmes douillettes également.
David Le Breton, dernière question. Vous parlez vous mettez en évidence la lacune des sens. Hein, le médecin regarde plutôt que ressent. Donc l'importance dans cette nouvelle médecine de la personne, qui n'est plus si nouvelle, mais enfin quand même, de l'empathie.
Ah oui, mais je crois de toute façon qu'on ne peut pas soigner quelqu'un si on ne s'identifie pas à sa douleur et si on n'a pas quelque part un désir de le soulager, de lui venir en aide. C'est ça d'ailleurs qui alimente ce que les médecins appellent l'effet placebo, que je préfère appeler en termes anthropologiques l'efficacité symbolique, c'est-à-dire l'efficacité du sens. Je crois que c'est une expérience d'ailleurs bien commune pour chacun de nous. Quand on sent que le médecin est engagé dans la volonté de nous venir en aide, on est profond. Soi-même, on s'implique dans les soins, on est ému que le médecin soit à ce point touché par ce qui nous arrive. Et donc, finalement, on va aider le ciel à nous aider, hein, pour le dire sous cette forme-là. On va mobiliser en nous des ressources qui vont permettre le processus de guérison ou de soulagement. En revanche, si je suis devant un médecin dont je me dis il s'en fiche complètement, il m'a même pas écouté, quand j'ai commencé à lui dire comment j'avais mal, il m'a arrêté pour me dire oui, ça va, je comprends. Alors, il était en train de regarder mes radiographies ou d'autres imageries. Je me dis, il n'est pas concerné par ce que je ressens. Et donc, généralement, on ne retourne pas voir ce type de médecin. Ou alors, si on va le voir, c'est avec le sentiment que c'est sûrement pas lui qui va nous venir en aide. Donc, je pense qu'on n'est pas efficace. Mais je dirais la même chose d'ailleurs dans les pratiques d'enseignement ou vous à la radio ou ailleurs. Je crois que quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand on n'est pas engagé dans ce qu'on fait, on n'est pas très efficace avec les gens dont on a la charge. Et particulièrement, je pense que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tous les gens qui entourent des personnes souffrantes doivent être profondément engagés dans une empathie, dans une identification à la souffrance de l'autre et dans une volonté de les aider. C'est ce que Aristote appelait d'ailleurs la philia, ce sens de l'amitié en quelque sorte.
Autant de stratégies, en tout cas, pour faire en sorte que cette douleur qui est la moins partageable des choses et des phénomènes le soit un peu plus. Merci David Le Breton. Tenir, douleur chronique et réinvention de soi vient de paraître aux éditions Métellier. Et très très belle journée. Vous ne souffrez pas?
Non, merci infiniment. Pardonnez-moi, j'avais un chat dans la gorge.
Je vous en prie, pas de problème. C'est la saison des chats. Merci David Le Breton, à bientôt.
Merci infiniment.
À très bientôt, Nancy Psilantis.
Merci, à bientôt, oui, la semaine prochaine.
Et puis, on va prolonger tous ces propos avec l'une des plus belles expressions, sinon de la douleur, du moins de la souffrance. Si vous êtes attentif, vous entendrez sous la voix de René Jacobs les cordes sangloter. Dietrich Buxtehude, qui en est le compositeur, pleurait à sa manière la mort de son père.